bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Salut les marketeurs, je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania, je suis rejoint par Morgane Février. Morgane est une coach et une consultante en web marketing qui a aussi son propre podcast, le podcast des entrepreneurs, sur lequel elle conseille les entrepreneurs dans leur parcours. Mais si j'ai invité Morgane aujourd'hui sur le podcast, c'est pour apprendre ce qu'elle sait. Et c'est pour découvrir comment elle en est arrivée là. En particulier, vous allez apprendre comment une idée de départ qui n'a pas fonctionné a permis à Morgane de rebondir sur son business actuel. Vous allez apprendre comment son podcast attire des opportunités inouïes pour elle à ce stade dans sa carrière. Et au passage, je vous raconterai ma philosophie par rapport à ce podcast et ce que j'essaye d'accomplir avec vous aujourd'hui par cette émission. Et finalement, on discutera avec Morgane de comment évaluer une idée, un projet, pour pouvoir vous investir dans les bonnes idées et dans les bons projets et éliminer tout ce qui ne fait pas sens pour vous. Alors, sans plus de transition, je vous présente Morgane Février. Salut Morgane, bienvenue sur le podcast.
Bonjour, ça va ?
Ça va très bien. Écoute, je voudrais que tu commences par te pitcher un petit peu. Et décris-moi, comment est-ce que tu te présentes ? Disons que tu rencontres une nouvelle personne, on se rencontre pour la première fois. Comment est-ce que tu te présentes toi-même en 30 secondes ?
C'est une question... compliqué, ça va dépendre, je pense, de l'interlocuteur que j'ai en face. En général, comme je fais beaucoup de choses, pour faire le moins compliqué possible, je dis que je suis un couteau suisse pour entrepreneurs.
D'accord.
Parce que je suis à la fois consultante, formatrice, coach, je fais des conférences, je suis auteur, voilà.
D'accord. Quel est ton apport précis pour tes clients ? Quelle est ta différenciation, disons ?
Ma différenciation, moi j'ai un parcours assez long en digital. Donc j'ai fait 10 ans de salariat dans le monde digital, donc aussi bien web que mobile. Et je suis entrepreneur depuis 3 ans et demi. Et en fait, du coup, ça me permet d'être à l'écoute à la fois de la compréhension des problèmes des entrepreneurs que j'ai en face de moi, de la résolution de problèmes, d'avoir une vision aussi long terme sur des stratégies à aborder ou à mettre en place. Et je pense que l'atout que j'ai, c'est que je suis assez intègre, j'ai le sens du service client, en fait. Donc là, ça m'a permis, tu vois, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, je suis spécialiste en web marketing et je n'utilise pas de web marketing pour promouvoir mes produits et mes services parce que j'ai des clients. Donc voilà.
Donc comment est-ce que tu promets tes produits et tes services du coup ? C'est pas mal de networking en personne ?
C'est vraiment du networking. En fait, je suis en majorité sur recommandation. Donc j'ai des appels ou des mails de « un tel m'a parlé de toi, est-ce que tu pourrais faire ceci, cela ?» Et puis j'ai aussi une bonne récurrence client, comme on dit, une bonne lifetime value, parce que les clients avec qui j'ai travaillé sont amenés à me redemander d'autres services 6 mois, 1 an plus tard. Donc voilà.
D'accord. Et du coup, tu travailles avec quel type de clients ? C'est des grosses boîtes, c'est des entrepreneurs, c'est des managers ?
Alors, sur la partie consulting et formation, je vais plutôt avoir TPE, PME, start-up. Mais il y a aussi des exceptions. Des fois, j'ai des solopreneurs dans différents types de milieux, par exemple des ostéopathes ou des hypnos ou des infopreneurs. Et sur la partie coaching, en individuel, je vais avoir... des indépendants, des dirigeants, je vais avoir des comédiens aussi. Et sur du coaching en groupe, là, ça va être vraiment pure entreprise, quoi. Ça va être conseil en management, en motivation, en gestion de conflits, en gestion du stress, en prise de parole en public, en motivation, etc.
D'accord. T'as une équipe pour tout ça ou c'est toi ? Qui fait tout ?
Alors, j'ai une équipe de freelance que j'ai sélectionnés chacun dans une spécialité, si tu veux. Donc, par exemple, j'ai pas 1 million de graphistes, j'en ai un. J'en ai un qui est spécialiste en RP, j'en ai un qui est spécialiste en SEO. Voilà. Et puis après, là, comme je grossis un petit peu, là, je vais quand même avoir un recrutement, donc un CDI là qui va rentrer en septembre.
D'accord.
En plus.
Moi aussi, là, je recrute pour la première fois des gens à plein temps en septembre, c'est drôle. Ok, et donc en ce moment, tu dirais que ton rôle, toi, c'est quoi? Tu coordonnes tous ces gens-là ou tu mets vraiment encore les mains dans le cambouis à ce stade?
Je mets les mains dans le cambouis, oui. Alors sur la partie consulting, généralement en recommandation, c'est-à-dire que je vais faire la recommandation ou l'audit des solutions à mettre en œuvre. Après, sur la mise en œuvre, bah, soit je le fais, enfin, soit c'est mon équipe qui le fait, ou soit c'est une autre structure. Et par contre, sur la partie coaching, là, c'est moi qui m'en occupe à 100%.
Ok. Une des raisons pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, c'est lié à ton podcast, parce que tu es aussi une des podcasteuses françaises que j'ai regardées avant de commencer. Comment est-ce que tu vois le rôle de ton podcast dans tout ce que tu viens de me raconter?
Bah, le podcast, pour moi, c'est la façon de donner un service gratuit d'écoute, d'information et d'accompagnement à un maximum d'entrepreneurs. Parce que du coup, bon, bah, comme tu disais, je suis toute seule, enfin, j'ai des équipes, mais je suis limitée quand même en nombre de clients que je peux aider. Et je trouve ça pas mal de pouvoir voilà, aider quand même un maximum de personnes parce que bah, c'est pas toujours simple. Et puis, en tant qu'entrepreneur, finalement, il y a la majorité des entrepreneurs en France, plus de 80%, c'est des indépendants, enfin, c'est des gens qui sont tout seuls. Et je trouve qu'il n'y a pas encore, à l'heure actuelle, de bonnes solutions d'accompagnement. Ça commence à se mettre en place, hein. Il y a des structures comme The Family ou des coachings justement en ligne, des formations en ligne qui commencent à être là. Mais si tu veux, tout ça, c'est payant quelque part. Moi, j'avais envie de donner aussi. Donc voilà, j'aime bien donner avant de recevoir. Ça m'a toujours servi dans ma vie. Et voilà, j'espère que j'aide. Enfin, en tout cas, j'ai des bons retours de tous les auditeurs. Donc, je suis plutôt contente de ce projet-là.
Et du coup, tu dis donner, ça, tu aurais pu le faire par exemple avec des articles ou avec des vidéos. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le format du podcast en particulier?
Alors, des articles, j'en fais. Sur mon blog, parce que j'ai aussi un blog. La vidéo ou le podcast, j'ai super hésité au début. Parce que déjà, j'aime pas trop me mettre en avant. Donc là, il a fallu que je fasse un gros travail sur moi là-dessus. Et la vidéo, pour moi, c'était trop dur il y a un an de m'y mettre. Et puis, moi, j'aime bien les podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts américains.
Tu peux citer quelques-uns?
Par exemple, Red Entrepreneur. Il y en a un qui s'appelle Startup.
Startup, qui est génial. J'ai adoré Startup. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Startup parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de fantastique que beaucoup de gens pourraient découvrir.
Alors, c'est un peu difficile à expliquer. C'est comme un soap-opéra, mais pour de vrai. La personne, en fait, elle construit sa start-up et on la voit du début à la fin. À la fin. C'est un documentaire audio et c'est vraiment génial. Et je trouvais qu'en France, enfin en français en tout cas, il n'y avait pas énormément, énormément de podcasts. Bon, il y a les outils du manager, il y a le podcast de Lingen, il y a quoi déjà? Ben, il y avait Histoire d'entrepreneur d'Harold Paris, mais qui l'a pas continué. Mais en fait, j'avais vite fait le tour et moi, j'aime bien écouter les podcasts parce que du coup, en fait, je fais autre chose en même temps. Parce que je suis tout le temps en train de faire plein de choses. Et bah, quand tu prends le métro et que tu as 45 minutes de trajet, pour moi, du coup, j'apprends des choses. Donc, j'aime bien apprendre et voilà.
Moi, c'est un format qui me touche énormément. C'est comme ça, moi, que j'ai commencé. Hein. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je passais 1 heure et demie dans le métro tous les jours. Et 1 heure et demie de podcast par jour, ça commence au bout de quelques semaines, quelques mois, ça commence à faire la différence, quoi. On peut vraiment se former comme ça. Moi, je suis un gros consommateur encore aujourd'hui de podcasts. En ce moment, ce que j'adore, c'est le podcast de Tim Ferriss.
Oui, je l'écoute aussi.
qui fait des interviews fantastiques. Moi, je peux te dire qu'en termes d'interview, ce qui m'apprend à faire les interviews, le mec que je regarde en ce moment, c'est Tim Ferriss. Il y en a un autre qui s'appelle Andrew Warner sur Mixergy, qui fait d'excellentes interviews business aussi. Mais c'est des mecs qui savent creuser, quoi. Ils savent poser des questions, ils savent rentrer dans les choses. Et en tant que format, je trouve que c'est quelque chose de super personnel. Les gens passent toutes les semaines du temps avec toi. Ils t'écoutent, ils sont là pour du temps. Voilà. Les gens vont être sur un article, ils vont le lire pendant 5 minutes. Sur un podcast, ils vont le scanner avec un double conversation sur Facebook à côté. Sur ton podcast, ils vont rester avec toi pendant une demi-heure, 40 minutes.
Oui, c'est vrai. C'est super personnel.
Je voulais venir sur ce sujet parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup exploité en France, quoi. C'est fou.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est moins simple que d'envoyer une vidéo sur YouTube, hein, le cheminement pour envoyer le podcast, c'est sûr. Et niveau des statistiques, c'est une galère.
Bah, iTunes ne donne pas grand-chose, quoi. C'est le problème. C'est la question qu'on me pose toujours. Alors du coup, je voulais te la poser. Moi, ça fait longtemps que je fais du podcast. Avant d'avoir ce podcast, j'en avais un autre. Et ce podcast-là, voilà, fonctionne bien. Et là, bien mis en avant sur iTunes cet été, etc. Donc, je suis super content. Les gens me demandent tout le temps, t'es numéro un sur iTunes, etc. Tu dois être enfoui sous une masse de trafic, etc. En fait, en termes de volume, c'est pas si colossal que les gens pourraient l'imaginer. En revanche, moi, je trouve que ça aide à construire la confiance avec ton public d'une façon qu'un article sur Google ne permet pas. Toi, tu as un peu plus de recul là-dessus sur ton podcast, vu que tu en es à l'épisode 50 et quelques.
55, ouais.
55. Donc, tu as un peu de recul. Je suppose que tu sais, il y a des gens qui viennent te voir en disant « Écoute, je t'ai découvert sur ton podcast. »
Complètement. Ouais, complètement. Je suis contactée régulièrement grâce au podcast, en fait. Et là, pour le coup, ça peut être... des gros organismes, des syndicats patronaux, ça peut être la Fédération des auto-entrepreneurs, ça peut être des surprises comme ça où tu te dis « Ah ouais, ils ont écouté mon podcast, c'est cool. Ouais, »
Tu sais jamais qui se cache derrière une écoute. Quoi. Moi, j'en suis à l'épisode 5 et j'ai été contacté quand même par des personnages où j'aurais du mal à les avoir par email. Quoi. À dire « Bonjour je voudrais vous parler. » Il m'aurait dit, voilà, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu spammes mon email? Mais du coup, il m'écoute et dit, tiens, j'ai entendu ton podcast. Tu veux pas aller discuter de ce projet-là?
Ouais, complètement. Et non, je voulais juste te dire aussi, par rapport à la vidéo, j'ai un projet vidéo qui est en cours là. Je suis en train d'en faire, mais c'est un. Je peux pas trop t'en dire. j'essaie de trouver un format fun et sympa pour diffuser de l'info. Autre que juste un mec qui est devant la caméra.
Ok, intéressant. Bah écoute, tu m'en diras plus quand ça sort.
Je t'enverrai ça.
J'ai envie de revenir un peu en arrière avec toi parce que j'ai trouvé que tu avais un parcours en particulier ces dernières années où tu avais beaucoup de choses. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses sur toi en ligne où je peux t'avouer que pendant un moment dans mes recherches, je me suis dit « Oulala, comment est-ce que je fais sens de tout ça ?» parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je voudrais revenir un peu et que tu m'aides à dessiner l'histoire de ton parcours en tant qu'entrepreneur parce que j'ai vu en particulier que Wishes avait au départ une proposition de valeur qui était extrêmement différente.
Absolument.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, nous dire comment est-ce que ça a évolué vers ce que c'est aujourd'hui ?
Alors, au départ, j'ai créé Wishes pour faire un assistant personnel pour les cadres et les entrepreneurs pour les aider à gérer leur quotidien, leur vie privée.
C'était en 2012 ?
C'était en 2012. Donc, en fait, tu avais un problème de babysitting, tu avais un problème de plomberie, tu avais un problème de tu savais pas quoi faire ce week-end. Donc, j'étais là par messagerie sur ton mobile. Tu m'envoyais un message et je trouvais une solution. Et quand j'ai fait ce projet-là, en fait, je suis allée dans une pépinière d'entreprise parce que j'avais pas envie de m'isoler, en fait, d'être toute seule. En plus, moi, je suis quelqu'un qui aime manager énormément de personnes, qui aime bien le contact, etc. Donc, je me voyais pas rester toute la journée toute seule à la maison. Ça me convenait pas. Donc, je suis partie en pépinière. Donc, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui ont vu, en fait, comment je travaillais. Et ils ont commencé à venir me demander « Ah Morgane, est-ce que tu peux pas regarder mon site web? Est-ce que tu peux pas regarder mes réseaux sociaux? Est-ce que tu veux pas t'occuper d'AdWords? Est-ce que tu veux pas t'occuper de ma stratégie marketing? Comment on fait pour lever des fonds? Est-ce que tu sais faire un BP ?» Voilà. Et en fait, je suis partie en mode du coup « mission consulting ». Et ça s'est jamais arrêté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, je pouvais pas faire les deux. Donc, j'ai pris la décision, en fait, de fermer cet assistant personnel et de me consacrer au consulting, ce qui après a donné de la formation web marketing et ce qui après m'a amené également au coaching. Voilà.
D'accord. Et donc, on peut en parler de cette idée. Est-ce que tu trouvais que ça ne fonctionnait pas? Tu n'avais pas l'attraction? Tu as perdu la passion pour le truc? Qu'est-ce qui t'a poussé à passer sur du coaching plutôt que ton idée d'origine?
Si tu veux, le service en France, c'est compliqué parce que les Français ont du mal avec ça. Ils ont l'impression que le service, c'est gratuit ou que ça va pas avoir forcément de valeur. J'avais du mal à transmettre ma proposition de valeur aux prospects. Les clients que j'avais, donc je suis montée à une quarantaine de clients et en fait, tu avais un abonnement à 35 € par mois. Les clients que j'avais, ils venaient, ils me disaient « Waouh, super, c'est génial, enfin ce service arrive en France ». Parce que ça a un côté vraiment anglo-saxon, je dirais. C'est une mentalité, quoi. C'est une mentalité. La plupart des Français vont me dire « Mais attends, moi, j'ai pas besoin d'un assistant personnel, j'ai un truc à faire, je me débrouille ». Et puis, je suis tombée en 2012 pendant une période d'élection présidentielle. c'était pas facile. Hein. J'ai quand même été sur French Web, j'ai été service du mois sur efféminin.com. Enfin, j'ai eu un papier dans Le Figaro, Madame. Enfin, c'était pas mal, tu vois, mais... Je sentais qu'il fallait que je m'adresse à une cible qui était déjà convaincue pour qu'ils viennent chez moi. Et c'était bien avant l'avènement de toute la démocratisation des services à la personne, etc. Tu vois, j'ai vraiment, c'était un time to market peut-être un peu foireux. Et c'est vrai que du coup, je suis retombée sur mes passions premières de web marketing, d'internet, de digital, et que j'avais plus de fun à faire le consulting au final, quoi.
Ouais, donc c'est ce qu'on appelle un pivot, quoi, qui était assez spectaculaire dans ton cas, parce que effectivement, t'as monté un truc, l'idée de base avait pas l'attraction que tu voulais. Mais tu avais une compétence derrière que tu pouvais réutiliser sur autre chose, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent en tirer des leçons. Parce que c'est pas parce que tu changes d'orientation que tu abandonnes.
Tout à fait.
Voilà, personne t'oblige, disons, assis dans ta chambre avant de commencer à avoir l'idée géniale du premier coup. Il est possible qu'une fois que tu es sur le terrain et c'est ton idée, tu aperçois que c'est pas tout à fait ce que tu veux faire, mais il y a une idée adjacente qui, là, pour le coup, a de l'attraction et pourrait décoller.
Bien sûr. Et puis, si j'avais pas fait cet assistant personnel, j'aurais pas fait le consulting derrière. Donc, il faut toujours voir, quand il arrive des galères ou des échecs, comme on dit, il faut toujours prendre le positif et rebondir. Parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, voilà. Moi, le mot échec, je l'aime pas parce que je pense qu'il est connoté trop péjorativement. Et quelque part, je pense que souvent, les échecs, c'est pas des bénédictions, mais des moyens d'apprendre et de rebondir et de construire ta personnalité, ta façon de voir la vie, ta façon de voir le business, etc. Quoi.
Ouais. Là-dessus, je voudrais voir avec toi, parce que tu travailles beaucoup avec les entrepreneurs. Une des choses qui est revenue dans une des interviews que j'ai fait et qui sera publiée la semaine dernière par rapport au moment où vous écoutez ce podcast, c'est que j'avais discuté avec l'invité de la valeur des idées. Est-ce que ton idée a de la valeur? Est-ce qu'il y a vraiment une idée géniale ou le gars a une idée géniale? Et il faut qu'il la protège et c'est son idée qui va décoller. Ou est-ce que c'est l'entrepreneur qui, de toute façon, rebondit sur des choses et les idées, elles sont là, quoi. Il n'y a pas d'idées nouvelles, tout le monde rebondit. Il y a deux écoles là-dessus, toi. Où est-ce que tu te sens là-dessus? Quels sont les conseils que tu donnes aux entrepreneurs que tu vois? Est-ce que l'idée est importante?
Moi, j'ai un point de vue bien tranché sur la question qui est très difficile à entendre pour beaucoup de gens. L'idée ne vaut rien. Et j'ai eu des longues conversations avec des gens qui m'ont dit « Mais tu dis n'importe quoi, mais c'est scandaleux. Bien sûr qu'une idée, c'est le début du truc, c'est de là d'où vient le projet, c'est ça qui est important. » Et je leur dis « Non, c'est faux. C'est faux. Des idées, tout le monde en a. Tu penses que tu as une idée géniale, je ne sais plus combien on est d'habitants sur Terre, mais tu as au moins X milliers de personnes qui ont la même idée que toi, en même temps que toi ou deux semaines après. C'est pas l'idée qui fait le projet. » C'est les gens, c'est la mise en œuvre, le plaisir que tu as à le faire et ta stratégie, quoi. L'idée ne vaut rien.
Je suis d'accord avec toi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je voulais entendre ce que tu en pensais. Parce que, les gens qui ne sont pas dedans ne s'en rendent pas compte du tout. Moi, j'ai encore des gens qui me disent « Écoute, j'ai une super idée, mais je ne te la dis pas parce que j'ai peur qu'on me la pique. » Le problème, c'est que si ton idée, les gens vont te la piquer et vont faire un meilleur boulot que toi, au bout d'un moment, tu vas bien devoir lancer ton projet. Donc, t'es cuit. Si t'es pas capable d'exécuter sur ton idée, voilà, tu peux pas monter un business sans que personne n'en ait jamais entendu parler, quoi. Ou alors t'es extrêmement fort.
Bah oui, ça n'a pas de sens. Et c'est une grave erreur parce que, en plus, c'est en parlant de ton idée que tu vas voir si, si elle est bonne ou aussi s'il faut que tu fasses un pivot ou si tu t'adresses à la bonne cible. Enfin, faut ne pas hésiter à pitcher votre idée à tout le monde, quoi. Voir si les gens comprennent, s'il y a quelque chose ou pas.
Ouais. Moi, c'est un des facteurs que j'utilise quand je rencontre quelqu'un qui veut être entrepreneur pour déterminer qui va vraiment le faire et qui ne va pas le faire. Les gens qui n'ont pas peur de parler de leurs idées et qui partagent, généralement, c'est eux qui arriveront à mettre en place le truc parce qu'ils ont compris qu'au final, ce qui comptait, c'était de le faire. Voilà. Après, il y a des trucs incroyables. Hein. Si tu veux regarder, en fait, il y avait une boîte qui s'appelait Magicab, il y a quelques années, qui faisait exactement ce que fait Uber aujourd'hui. Uber, c'est une boîte qui vaut 40 milliards, Magicab, ça fait longtemps que voilà qu'ils ont disparu. Même idée. La différence, c'est que t'as Travis Kalanick qui est arrivé sur Uber et qui a tout défoncé parce que voilà, le mec savait exécuter. C'était un business extrêmement difficile à monter, comme on l'a vu en France, avec des questions légales et des luttes comme ça de ce côté-là, avec un capital derrière pour ils ont levé énormément d'argent.
Bien sûr.
Voilà, donc tout ça, c'était pas n'importe qui pouvait le faire. L'idée de base est assez simple. On va faire une appli qui t'envoie des taxis. L'exécution fait tout. Et Facebook a la même idée. Hein. L'idée de Facebook, elle était déjà là. Il y avait eu des dizaines de réseaux sociaux avant qui avaient existé. Après, derrière, il y a le mec qui est arrivé avec l'exécution qu'il fallait, etc.
Exactement. La bonne équipe. Et voilà. Moi, quand j'étais en pépinière en 2012, il y avait une société, une start-up qui était avec moi qui faisait du Uber. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'ils soient encore vivants.
Ouais, c'est incroyable hein, quand tu vois ça. Et ça peut être assez rageant quand tu parles avec des gens, donc entre guillemets dans le civil, c'est-à-dire des gens qui sont pas du tout dans le milieu entrepreneuriat et qui te disent « Oh, écoute, cette idée, je l'avais eue avant eux et j'aurais pu le faire moi-même. » Non. si tu avais pu le faire, tu l'aurais fait.
Ouais, non, ça marche pas comme ça. Puis pire que ça, après, tu t'es pas forcément obligé d'être tout seul sur un marché non plus. Enfin, il y a des services qui peuvent coexister. Tu prends par exemple Sarenza et Zalando. Ben, il y a une des deux marques en fait qui est arrivée avant. Et la deuxième marque, bah, c'est les frères Roquette, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, qui ouais. sont des spécialistes de copy business, qui copient intégralement le business. Alors certes, eux, ils ont des sous, donc voilà, ils fonctionnent en machine à cash, mais ils refont exactement la même chose qu'un business qui existe déjà, et ils prennent le marché et voilà.
Exécution.
Donc exécution, hein, là, ce n'est pas l'idée. Ils n'ont aucune idée.
Quoi qu'on dise de Roquette, hein, derrière, il y a une capacité opérationnelle à répliquer ses business qui est impressionnante. Hein. Moi, je suis extrêmement impressionné par ce qu'ils font en ce moment en Afrique, etc. C'est impressionnant. Voilà, des gars qui se disent, on ne va pas penser à des idées géniales, on va prendre des idées qui sont déjà là quelque part, qui existent. Et on va mettre les gens dessus, on va monter les équipes, on va faire les process et on va mettre ça en place. Et la valeur est là-dedans. Quoi. C'est là, ouais, c'est ces gars-là qui gagnent au final.
Exactement. Ben, c'est là où, t'as, pour moi, je donne souvent cet exemple parce que là, tu as l'exemple quand même de A plus B que l'idée ne vaut rien. C'est l'exécution.
Ouais, effectivement. Donc toi, en parlant d'idées, tu as quand même entre-temps lancé un certain nombre de projets différents.
Oula, oui.
En particulier, j'avais vu quelque chose que je trouvais complètement fou, où tu faisais des paris sur la météo.
Tout à fait.
Dans tous ces projets-là, comment est-ce que tu évalues une opportunité, toi? Quels sont les critères que tu regardes? Est-ce que c'est la passion intérieure? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est les gens?
Alors, en premier, c'est vraiment les personnes qui vont participer au projet. C'est le premier critère pour moi. Le deuxième critère, c'est est-ce que le projet, il est fun ou pas? Parce que je suis pas quelqu'un qui va te dire, oui, alors, comme l'étude machin truc est sortie, il faut absolument se lancer dans ce créneau de business parce que ça fonctionne. Alors, pas du tout. Moi, c'est fun ou c'est pas fun, déjà. C'est sympa, c'est pas sympa à faire parce que je sais par expérience que si tu n'as pas de motivation réelle, intrinsèque et un petit peu de fun dans ce que tu fais, à un moment, t'abandonnes. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est est-ce que le projet, il est envisageable? Est-ce qu'il peut voir le jour? Parce que des fois, tu as des projets qui sont tellement perchés qu'il faut quand même évaluer si c'est faisable. si on peut le mettre en place. Par exemple, si tu as envie de construire une société qui te permet d'acheter des billets pour aller sur la Lune, bon, tu peux pas, tu vois, même si c'est fun.
Ah, et sauf si tu es Elon Musk, quoi.
Bon, oui.
Ou Richard Branson.
C'est ça. Bon, tu peux dans un certain nombre de cas, mais pas tout le temps. Et après, ça va être le quatrième critère, ça va être combien de temps ça va me prendre dans mon planning. Parce que pareil, quand je m'investis dans un projet, c'est pas juste bon, ok, on y va et puis je laisse les autres faire et on verra ce que ça donne. Non, quand je dis on y va, c'est que je sais que je vais accorder X temps à ce projet-là et j'en parle aux associés ou aux personnes qui participent au projet. Je leur dis voilà, moi je travaille un cinquième de mon temps par exemple là-dessus et je vous accompagne comme ça, quoi. Donc voilà, c'est les quatre gros critères que je vois par ordre d'importance.
Excellente réponse. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu t'engages rapidement ou tu t'engages lentement? Et la question, là, je vais la reformuler parce qu'elle n'est pas très bien posée. L'idée étant que quand tu es entrepreneur, au bout d'un certain temps, tu te retrouves à avoir beaucoup d'idées et beaucoup de projets. En gros, ton problème, ce n'est pas d'avoir pas assez d'idées, c'est que tu as beaucoup d'idées, tu sais que tu ne veux pas tout faire, tu dois choisir. Et surtout, le problème, c'est que l'idée nouvelle est attirante. Donc, tu as tendance, tu peux facilement devenir une girouette et courir dans tous les sens parce que l'idée nouvelle est excitante, ça brille et, voilà, et tu vas dessus directement. Est-ce que c'est quelque chose que t'as remarqué? Moi, c'est quelque chose sur un plan personnel que j'ai remarqué et auquel je fais très attention. Ce qui veut dire que c'est en fait extrêmement difficile pour moi de m'engager sur un nouveau projet parce que je freine des quatre fers en me disant est-ce que j'ai le temps? Est-ce que ça a du sens par rapport à ce que je fais? Est-ce que ça va pouvoir ajouter quelque chose? Ou est-ce que je m'engage juste sur un nouveau projet parce que c'est marrant de dire oui aux gens et de faire un truc immédiat, mais en fait, dans 3 mois, je vais me retrouver avec un truc qui traîne dans un coin.
Non, je freine. Mm-hmm. Franchement, je freine. Je freine beaucoup. Et en plus de ça, quand tu fais des recherches sur moi sur Internet, tu vois certains des projets, ceux qui ont abouti pour la plupart. Mais il y en a une bonne dizaine que tu ne vois pas, qui n'ont pas abouti pour diverses raisons. Mais et en plus, si tu prends ces 10 projets-là, derrière, il y avait 200 possibilités. Donc, voilà, tu pars de 200 propositions, t'en choisis 10 et il y en a 2 qui vont fonctionner, quoi, en gros. Et donc, je sélectionne, je freine des quatre fers parce que, comme je te disais tout à l'heure, je suis vraiment quelqu'un qui a des valeurs d'intégrité assez hautes. Et je ne, quand je dis oui, c'est que je te dis oui. Je ne vais pas te dire oui pour te faire plaisir, jamais. Ça n'arrive pas. Parce que quand je te dis oui, pour moi, même si c'est de l'oral ou si on se tape dans la main, pour moi, c'est un engagement qui est aussi fort qu'un contrat. Après, c'est ma personnalité, c'est ma façon de faire. Hein, mais je sais très bien que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais moi, c'est important pour moi. Donc, si je te dis oui, ce ne sera pas pour te faire plaisir. Et ça veut dire que j'aurais pris en connaissance les 4 critères que je t'ai donnés tout à l'heure. Hein. La personne qui va participer au projet, est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est envisageable? Et est-ce que je peux le prendre en charge dans mon planning? Voilà. À ce moment-là, je te dis oui.
OK. Donc, du coup, toi, tu es entrepreneur depuis 3 ans. En regardant vers le futur, à quoi ressemblent les 3 prochaines années pour toi?
Oh, sympa comme question.
Ouais, c'est bien. c'est la question d'entretien d'embauche. Où voyez-vous dans 5 ans?
C'est ça, c'est la vieille question.
Si tu veux, je vais parler un petit peu pour donner le temps d'y réfléchir et je vais préciser ma question. Ouais. L'idée, c'est pas que tu me dises exactement ce que tu vas faire, c'est de voir un peu toi tes envies, où est-ce que tu te projettes, qu'est-ce que tu as envie de construire, est-ce que tu as envie de construire une grosse boîte avec beaucoup d'employés, est-ce que tu as envie de continuer à faire ton podcast, est-ce que tu as envie de faire du contenu, est-ce que tu as envie de monter d'autres petits projets comme tu l'as fait, qui peuvent potentiellement exploser. Quelles sont tes envies là-dessus? Voilà, même si c'est un point donné dans le temps, moi, je sais que moi, un de mes gros problèmes, c'est les gens me disent « Tiens, dans 3 mois, je voudrais qu'on reparle de ça. Dans 3 mois, je ne sais même pas sur quel continent je vais habiter, en fait. »
Ouais, c'est ça.
C'est un truc littéral. Enfin, je ne sais pas si je serai en Asie, en Europe, ou si je serai en Amérique du Sud. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de se projeter dans le futur. En revanche, à tout point donné dans le continuum espace-temps, j'ai une vision extrêmement claire de ce que je vais accomplir, qui ne se réalise jamais parce qu'elle est tout le temps en train de changer. Mais je me projette continuellement dans le futur et je me demande à quoi ça ressemble cette boîte, ce projet que je suis en train de faire, à quoi ça ressemble dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ça, sur ça un peu que j'essayais de t'amener. Donc maintenant que j'ai parlé un petit peu, que j'ai fait tourner le truc, je t'ai laissé un peu le temps de réfléchir. Est-ce que tu as une réponse pour moi ou est-ce que tu trouves que ma question est totalement pourrie?
Non, non, elle n'est pas pourrie. C'est une vieille question, mais ce n'est pas pourrie. Écoute, moi, je me vois déjà toujours entrepreneur.
Ouais.
Parce que bon, j'ai quand même fait 10 ans de salariat et même si ça fait que 3 ans et demi que je suis entrepreneur, je ne me vois pas retourner en salarié, c'est juste pas envisageable. Je me vois toujours accompagner des entreprises, des entrepreneurs, peut-être plutôt vers du coaching que du consulting, parce qu'il y a quand même une différence. Voilà, c'est pas le même métier. Et bien évidemment avec des lancements de différents projets toujours en cours quoi. Là en fait je suis en train de monter une nouvelle société là, à l'heure actuelle.
D'accord.
Sur un projet qui va sortir en septembre.
D'accord. Dont tu ne peux pas encore parler, c'est ça?
Ah si, je peux t'en parler un petit peu. C'est une application. C'est un réseau social. Alors, comme j'ai un associé qui est super bon dans le pitch, j'ai toujours peur de parler sans, sans son garde-fou à côté parce que moi, je suis pas aussi bonne que lui là-dedans. C'est un réseau social où tu partages tes restaurants et tes bars préférés. Mais un réseau social fermé qui est juste entre potes. Donc, on n'est pas sur des dimensions Facebook, Twitter, etc. C'est vraiment, tu sélectionnes les gens avec qui tu partages tes adresses. Tu peux voir les adresses de tes potes, le tout en géolocalisation. Et ce qui va permettre quoi? Ce qui va permettre de te rappeler les restos que tu aimes bien, parce que tout simplement, mais tu as déjà mangé à tel endroit, tu aimerais bien retourner, mais tu sais plus où c'était. Ça arrive. Quand tu pars en voyage, tu as tes potes qui vont te dire « Ouais, j'aimerais bien aller… Non, il faudrait que tu ailles à Berlin parce que c'est génial. Tu arrives là-bas, tu es obligé de les rappeler pour leur demander « C'est quoi les restos que vous me conseillez ?» Alors que là, avec l'application, tu géolocalises, tu es dans la rue et tu sais que tu dois aller dans ce resto-là parce que Jean-Michel te le conseille. Et voilà, donc c'est un super projet et je crois beaucoup en fait au réseau social fermé parce que je pense que les gens ils en ont marre d'avoir tout et n'importe qui sur leurs réseaux sociaux et les bars et les restos ça parle à tout le monde, c'est international et tu vas souvent bouffer au resto ou tu vas souvent boire un verre, enfin surtout dans la cible d'âge qu'on a sélectionné, donc voilà.
Cool. Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Uggy. Uggy. Uggy, les bons tuyaux. C'est le Shazam du restaurant, si tu veux. Tu auras un bouton, tu appuies, tu peux sélectionner l'endroit, l'enregistrer ou voir les restos qu'aiment tes potes. Et c'est une appli positive.
Et vous levez de l'argent pour ça?
Écoute, oui, à ma grande surprise, on lève de l'argent même sans encore... L'application, elle est en dev. On vient de valider les designs la semaine dernière. Et à ma grande surprise, on a des investisseurs qui veulent investir dedans. En France. Et des investisseurs français. Donc ça, c'est génial. Wow. Donc vous aurez plus de news là-dessus au mois de septembre. Mais il y a vraiment un truc. Je pense qu'il y a vraiment un truc.
Cool. Écoute, pour terminer avec toi, je voudrais te poser 3 questions rapides pour boucler l'interview. Première question, est-ce qu'il y a un bouquin que tu recommandes souvent?
Alors évidemment, mais alors maintenant, c'est de plus en plus cliché de dire ça. Timothy Ferris, La semaine de 4 heures.
Recommandé dans chacune de mes interviews jusqu'ici. Hein.
Mais ouais, mais c'est, je suis obligée, quoi.
Mais c'est aussi un livre que je recommande moi-même beaucoup, hein, blague à part.
Donc du coup, je vais t'en donner un autre parce que sinon, c'est un peu la loose. Qu'est-ce que je peux te recommander? J'aime beaucoup le livre de Eric Ries, Lean ouais. Startup. Parce que ça te donne en fait... en fait, c'est la façon de concevoir des produits et des services avec un investissement minimal et de faire le proof of concept un petit peu avant de sortir toute la machinerie de guerre en gros. Donc, ça te permet en fait de voir si ton produit est accepté, validé par les futurs clients et de commencer à vendre avant de dépenser trop d'argent ou de faire trop de machinerie derrière. Et ça, c'est assez important parce que je pense que c'est un vrai problème. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, non, mais là, moi, j'attends, je vais développer pendant 8 mois mon truc et puis j'en parle pas et puis je le sortirai que dans 8 mois. » Et au final, ils se retrouvent devant un mur et ils comprennent pas pourquoi leur produit marche pas. Parce qu'ils n'ont pas testé le marché, parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce que voulaient les clients, ils ont fait le produit pour eux, donc voilà. Donc ça, c'est pas mal, comme bouquin, je vous
Ouais.
conseille.
Donc, Lean Startup de Eric Ries, que je
Ouais.
recommande également, sur la question de la validation,
Ouais.
etc. C'est quelque chose, c'est un concept qui est vraiment super influent en ce moment, particulièrement en Silicon Valley, mais ça apporte pour tout le monde,
Ah
quoi.
ouais, non, mais
Enfin,
c'est génial, vraiment, c'est
voilà,
génial.
le fait de pouvoir valider. Ouais. Et c'est quelque chose qui aide énormément. Anecdotiquement, j'ai un copain qui, il y a quelques mois, était en train de développer une application. Donc, le gars est développeur. Donc, il a développé pendant 8 mois une application. Technologiquement, super bien. Technologiquement, ça a pété le feu. Problème, bah, il avait pas de marché pour ce truc-là, quoi. Il avait développé dans sa tête une idée d'application qui allait fonctionner, qui était dure à faire. Il l'a développée lui-même parce qu'il est un bon développeur. Le problème, il a oublié de valider la demande et il se retrouvait à essayer de vendre son truc alors que le marché n'était pas intéressé. Et il a foutu à la poubelle, ben, 8 mois de
Ouais, c'est
développement,
ça.
quoi.
Il aurait dû lire le bouquin Lean Startup.
Ouais. Et du coup, il a appris de ses erreurs. Et là, du coup, il est sur une nouvelle boîte où ils ont prévendu le truc à l'avance. Donc, il s'est trouvé un partenaire qui est vraiment du côté business. Et ils ont prévendu des licences. Et ouais,
Ouais, mais ça, c'est l'idéal. Et travailler avec les parties prenantes surtout. Avec les futurs prestats, les futurs fournisseurs. Et voilà, faut aller en amont produit pour même la conception même, quoi.
ouais. Deuxième question. Si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Fonce, fonce et ne cesse jamais de croire en ton instinct.
Donc, tu veux dire que tu as eu des moments de doute?
Bien évidemment.
Bah, moi, j'ai des questions, tu sais, où c'est pas trop compliqué. Effectivement, tout le monde. Ok. Crois en ton instinct, donc.
Ouais, crois en ton instinct, fonce. Te torture pas en te posant 50 000 questions. Si tu le sens, fais-le, quoi. Mais c'est généralement ce que j'ai fait, mais bon. Il y a toujours des moments de doute, hein, pour tout le monde, donc voilà.
C'est toujours les conseils les plus simples qu'on finit par ne pas appliquer.
Exactement.
Dernière question. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Ouais, alors moi, j'adore la citation, une des citations de Monsieur Albert Einstein, qui dit l'imagination est plus importante que le savoir. Ça, j'adore cette citation. Parce que, bon, on va peut-être pas faire un podcast d'une heure et demie, mais si tu veux, je trouve que le système scolaire éducatif à l'heure actuelle est plus adapté à notre société.
Ah ouais, là tu m'as lancé sur un sujet. Hein. Là, c'est une de mes bêtes noires.
Et c'est pour ça que cette citation, c'est pour moi, ça résume en fait ce que je pense de l'éducation en France.
On va rester là parce que
Voilà.
je peux te dire que si tu me lances sur le système éducatif, je suis parti. Hein. Tous les dîners de famille, maintenant, c'est ça. Écoute, Stan, comment ça va à l'école? Écoute, ça ne sert à rien, il faut apprendre par toi-même, il faut aller bidouiller dans ton coin. Voilà. Donc, pour terminer, où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail?
Alors, j'ai le site web de mon agence qui est wishes.com. J'ai mon blog qui est buzzimob.fr. J'ai le podcast de l'entrepreneur, donc que vous pouvez trouver sur mon blog buzzimob.fr ou sur iTunes ou sur Stitcher Radio ou sur Podcast Addict. Enfin bon, vous allez pouvoir trouver si vous tapez le podcast de l'entrepreneur dans Google, ça va suffire.
De toute façon, on mettra dans cet article tous les liens dont on a parlé, vers les livres, les podcasts et
Ouais.
vers tous tes sites.
Et j'ai entrepreneur coaching aussi. Enfin, on
D'accord.
mettra les liens. Voilà.
Écoute, je te remercie d'avoir été avec moi, ça m'a fait plaisir.
Eh ben, merci beaucoup, moi aussi.
Et à la prochaine.
À la prochaine, ça marche.
Salut.
Ciao.
Si vous avez un moment et que vous voulez me soutenir, j'ai en ce moment une offre qui tourne sur le site où, si vous me donnez une évaluation à 5 étoiles sur iTunes, je ferai gratuitement une critique de la page de votre choix. Ça peut être une landing page, la page d'accueil de votre blog, une page de vente, etc. Quelle que soit la page que vous aimeriez que je critique, vous pouvez me laisser une évaluation à 5 étoiles, m'envoyer le lien et je vous donnerai des conseils personnalisés sur comment optimiser votre page pour les conversions. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur marketingmania.fr/podcast et il y aura toutes les instructions. Et bien sûr, si les instructions ne sont plus disponibles à cette adresse, c'est que l'offre est terminée parce que, évidemment, ça demande beaucoup de temps de proposer ces critiques personnalisées, donc je n'en fais qu'un nombre limité. Pour l'instant, c'est limité à 10 personnes. Dans tous les cas, je vous retrouverai dans le prochain épisode avec de nouvelles idées pour booster vos conversions.